Bonjour.
Heureux d'être là et heureux d'avoir des invités, je dirais, de top niveau aujourd'hui. Pour les sujets qui nous intéressent, on va effectivement parler de technologie, mais surtout, et ce qui vous intéresse, c'est l'intelligence artificielle, dont on parle en permanence, on ne sait pas très bien quels sont les contours. On va voir qu'il y a beaucoup de tests, on va voir qu'il y a beaucoup d'exploration, j'ai un peu ce sentiment-là, et des choses plutôt intéressantes aussi à souligner, c'est ce que nous allons voir ensemble avec nos invités. Alors l'essor des technologies, et notamment donc de l'IA, pose beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Cette révolution, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Naïma Badidi. Bonjour Naïma.
Bonjour.
Alors, vous êtes Head of Governance Data SNCF Connect and Tech.
C'est ça.
Voilà. À vos côtés, Patrice Couget. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Directeur adjoint Data IA à la SG Retail France, Société Générale. Et Vincent Champin. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Très heureux d'être là, que vous soyez là, très heureux d'être là à vos côtés, si j'ose dire. Senior exécutif, vice-président digital performance et information technologie chez Framatome. Et puis vous allez au-delà aussi, puisque vous avez beaucoup d'écrits, beaucoup de tribunes, et vous vous posez des questions, mais au-delà des questions, il y a des réponses aussi, et j'aimerais bien vous entendre sur ce point-là. On va faire un rapide tour de table pour que vous compreniez bien le périmètre d'action et les activités de nos différents invités. Naïma, parlez-moi de vous, si j'ose dire. Quelles sont vos actions? Quel est votre périmètre?
Alors, vous savez, chez SNCF Connect and Tech, on a deux activités, une distributeur e-commerçant, et une où on est un peu au service du groupe et des régions pour fournir des solutions technologiques. Moi, je suis sur la première activité, donc pour tout ce qui est le site et l'app que vous connaissez tous. Et moi, mon job, en gros, c'est en tant que responsable gouvernance d'État, de m'assurer qu'on a les bons process, qu'on suit bien les réglementations et que même quand on innove et qu'on avance, on le fait dans les règles de l'art.
On peut avoir une idée du volume de data que vous gérez, c'est peut-être immense, mais on n'a peut-être pas le chiffre exact, mais ça nous donne un petit peu une idée de l'importance de cette fonction-là.
Alors, SNCF Connect, c'est en 2022, 3 millions de visites et 14,2 millions de clients actifs. Donc oui, il y a du passage et on a pas mal de clients.
Ouais, bon, on va voir après comment est-ce que vous gérez tout ça, comment est-ce que l'IA vient vous apporter peut-être une aide ou peut-être une expérimentation. Aujourd'hui, on va développer tout ça. Patrice, même question pour mieux vous connaître, décrire vos activités, votre périmètre d'action au sein de SG Retail France. Et votre action concerne autant une équipe en interne, j'imagine, tous les collaborateurs, un peu comme Naïma aussi, mais indirectement, il y a aussi les clients finaux.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, pour ceux qui suivent un tout petit peu l'actualité bancaire, peut-être il y en a dans la salle, donc on est né le 1er janvier de la fusion du réseau Crédit du Nord et du Retail France Société Générale. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans un grand programme d'unification du réseau d'agences et qui couvre, du coup, en fusionnant à peu près 10 millions de clients sur les trois marchés traditionnels d'une banque de réseau. Et du coup, on a eu aussi l'occasion de refondre les sièges et on en a profité pour refondre une direction data que je co-dirige avec Karim Perdreau et qui est, le centre névralgique de la stratégie data de SG Retail France. Donc on a à peu près toutes les activités non IT, quoique il y aurait un grand débat entre qu'est-ce qui est IT, qu'est-ce qui n'est pas IT, qu'est-ce qui est data, qu'est-ce qui n'est pas data.
On fera une autre table ronde.
Voilà, mais chez nous, c'est un grand débat. Mais voilà, donc en gros, toutes les activités de data management office, de gouvernance, de data science, de réflexion sur les socles, de réflexion sur la création de produits data. Voilà, tout ça, ça va être chez moi.
Ah ben on va en parler, on va le développer. Vincent Champin, Framatome est un chaudiériste. Nucléaire, fournisseur d'équipements et de services et de combustibles pour des niveaux de sûreté et de performance très élevés. Même question, le digital chez Framatome, sachant que le secteur nucléaire a toujours été très en avance sur le digital.
Oui, merci, bonjour. Alors, je ne sais pas qui dans la salle est dans une entreprise industrielle. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main, j'en vois quelques-unes. Ouais. Alors pour les autres, le data dans l'industrie, notamment la grosse industrie B2C, on en parle moins parce qu'on le connaît moins. Mais une semaine de Twitter, ça fait autant de données qu'un vol d'avion. Dans mes data centers en Allemagne, donc c'est qu'une partie de mes données, j'ai 20 pétaoctets de données. Donc on est dans un domaine où il y a beaucoup, beaucoup de données et mon enjeu, c'est de trouver l'aiguille de valeur dans la botte de données. Alors ce que fait Framatome, on fait trois choses. On conçoit, on construit et on installe tout ce qui est en fait dans la partie nucléaire d'un réacteur. Donc ça va être des cuves. Une cuve, ça fait 500 tonnes, 13 mètres de haut, avec des tolérances au dixième de millimètre. Des systèmes de contrôle, c'est ce qui assure qu'en cas de problème, la centrale s'arrête et qu'il n'y ait pas de risque. Du fuel, c'est-à-dire qu'on prend de l'uranium et on fait les assemblages, en fait les piles qui vont être à l'intérieur des réacteurs. Donc ça, on le conçoit, la conception, c'est des études avec du calcul scientifique d'une taille qui est assez inimaginable. Pour donner un ordre de grandeur, sur les composants les plus gros, on fait tourner le plus gros supercalculateur qui est en France pendant 6 mois. Le même supercalculateur, vous faites tourner 1 an, vous recréez ChatGPT. Donc c'est vraiment de la grosse machine. La partie installation, c'est des projets extrêmement compliqués. Enfin, on est tous en tête Flamanville, la Finlande. Alors on peut en rire, mais en fait c'est des choses, une complexité qui est très compliquée et l'informatique va aider à simplifier et à mettre du liant. Et puis toute la partie de services complémentaires dont je m'occupe, on a aussi un développement business dans lequel on vend des solutions dans la cybersécurité critique et pour des industries qui nous ressemblent. Et moi, à l'intérieur de ça, donc, je suis au COMEX, je fais 3 choses. 1, je développe cette activité digitale. 2, je m'occupe de la performance, c'est-à-dire qu'on a des spécialistes du lean et de l'amélioration de processus qui vont faire des améliorations outillées par du digital. C'est un changement. Avant, on avait des informaticiens qui allaient au contact des usines. Là, on a changé. On a mis des gens qui ont un contact beaucoup plus facile avec les usines mais qui vont pouvoir tirer des projets informatiques. Et le troisième point, c'est la cyber et l'IT, voilà, qui est un peu compliqué. Puis comme tu l'imagines, dans un contexte qui a été un peu chahuté avec la fin d'Areva. Bon, là, maintenant, le ciel s'éclaircit à nouveau. Mais enfin, ça n'a pas été une partie de plaisir.
Ouais, j'imagine. Alors on voit quand même que les questions de sécurité, les questions de gestion de data, enfin, voilà, quand je vous disais qu'on avait un parterre exceptionnel, c'est que vous avez des masses et à partir de tout ça, il faut avancer avec les technologies et l'impact de ces nouvelles technologies. On fait un petit focus et après je compte sur vous pour poser toutes vos questions. Naïma, je me tourne vers vous. Est-ce que finalement la transformation digitale et les nouvelles technologies ont eu un impact réel, concret dans la gestion des data et dans votre quotidien aussi ?
Alors, je dirais oui. Vous savez, il y a déjà le passage au cloud. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Avant, on avait tous des data centers. Bon, je ne sais pas s'il y a du cloud.
J'en ai toujours, mais j'y reviendrai.
Mais on n'a pas forcément que du cloud. Et en fait, ce passage au cloud, il faut qu'il soit fait de façon responsable. Qu'est-ce que j'entends par responsable ? Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de complexité pour stocker, parce que le cloud, ça permet de redimensionner à la volée les espaces, ça permet de s'affranchir des problématiques de traitement, mais ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Nous, quand on est passé dans le cloud, on avait une stratégie de, on va dire, data responsable, donc on continue de ne collecter que par use case de nos besoins, on ne collecte pas pour collecter, et il faut être focus sur les réglementations et la sécurité, parce que le passage au cloud remet en cause des choses sur l'aspect cyber. Donc, les nouvelles technologies, ça a beaucoup aidé, mais c'est comme tout le reste, il faut mettre un cadre. Et il faut suivre ce cadre pour être sûr que ce soit fait correctement et qu'on avance pour ne pas se rajouter des problèmes.
Ouais, j'imagine. On va parler du cloud ou pas cloud, hein, parce que j'ai l'impression que c'est une question qui nous intéresse, parce qu'elle est intimement liée, effectivement, à ce que vous disiez, à la sécurité. Sans faire de science-fiction, Naïma, que vont apporter, je dirais, ces nouvelles technologies et comment l'IA peut-elle avoir un impact sur nos vies, vous en tant qu'experts et professionnels, mais nous aussi en tant que consommateurs et clients?
Alors, on n'arrête pas le progrès. Donc, on ne va pas se cacher dans un coin en disant je ne ferai pas d'IA. Par contre, il faut le faire de façon intelligente en fonction de notre besoin. Dans la vie de tous les jours, sans faire de science-fiction, je pense que ça peut être... le premier use case, c'est l'assistance. On a plein de tâches chronophages et répétitives qui nous prennent du temps, mais qui ne sont pas forcément à forte valeur, mais qui sont des prérequis. Et ça, on peut utiliser l'IA pour le faire. C'est ce qu'on a fait dans l'industrie, quand on a remplacé des machines, on a mis des machines, pardon, pour remplacer des people, pour les aider à mieux produire et leur donner et les former à avoir à s'élever, on va dire, et pas faire des petites tâches chronophages, et que ce soit les machines qui remplacent ça. Ça, c'est déjà un bon élément, par exemple.
Oui, mais après, ça suscite... Vous pouvez intervenir, Patrice et Vincent, sur ce que dit Naïma. Vous n'hésitez pas, vous pouvez lui poser des questions, bien entendu. Mais ça contribue, je dirais, à ce ressentiment de crainte par rapport à l'IA. Vincent ?
Alors, moi, j'ai une thèse là-dessus. En fait, quand vous regardez, de quoi on a peur sur l'IA ? On a peur d'un système qui prenne des décisions à nous, qui prenne des décisions non éthiques et qui nous enferme dans quelque chose qui nous échappe.
Et qui nous contrôle.
Voilà, si vous réfléchissez à l'histoire, ces risques, ils ont été réalisés, non pas par la technologie, mais par la bureaucratie. Relisez les attendus du procès de Nuremberg. Vous avez des gens qui vous expliquent qu'ils ont chacun fait leur rôle et au total, cette bureaucratie fait les pires horreurs qu'on a connues. Les systèmes d'écoute massif de privation des libertés publiques, on les a vus bien avant le digital, bien avant le microprocesseur, liés à la bureaucratie. Regardez le sketch de Fernand Reynaud le 22 à Asnières. On a un gars qui essaye au téléphone de retrouver son chemin dans les standards téléphoniques. C'est en 1969, c'est 3 ans avant l'invention du microprocesseur. Donc ma conclusion, c'est quoi ? C'est qu'il ne faut pas se méfier de l'IA, il faut se méfier de la bureaucratie. Et que les problèmes qu'on impute à l'IA, c'est en fait des mauvaises utilisations de la technologie. Quand vous êtes, alors j'espère pas la Société Générale, mais face à un chatbot où vous êtes enfermé dans un truc, et même si la question est compliquée, on ne vous répond pas, le problème c'est pas la technologie, le problème c'est le gars qui a conçu un processus et qui n'a pas prévu que quand il y a quelqu'un qui pose des questions sans arrêt au bout de 3 minutes et que ça ne débouche pas, ben, il faut lui passer un opérateur. Et parler aujourd'hui à un centre d'appel d'un gars mal formé dans un pays éloigné, le problème, c'est pas l'opérateur, c'est le type qui a conçu un système dans lequel on a un gars avec un script et qui n'a pas prévu qu'on pouvait avoir besoin de sortir du script. Ce problème-là, c'est le problème de la bureaucratie. C'est pas le problème de l'IA.
C'est tout à fait juste.
Je suis complètement d'accord.
Patrice.
Bon, je te rassure, la Société Générale, tous les process sont absolument nickel.
Chez Boursorama, on a
alors, j'incluais de Boursorama dans le groupe, hein, parce que c'est le groupe Société Générale. Non, évidemment, on a aussi ce type de travers. Moi, je rajouterais sur l'IA que, comme toute... il y a IA générative. Hein. Moi, je fais une distinction. L'IA, elle existe depuis longtemps. D'ailleurs, même les réseaux de neurones, quand j'étais étudiant, j'en faisais. Mais là, c'est la proportion et la taille du nombre de neurones des modèles que nous apporte l'IA générative, qui est un vrai changement. C'est normal que ça entraîne un certain nombre de peurs, comme toute invention. Je ne pense pas que Marie Curie aurait arrêté ses recherches. Si on lui avait dit, peut-être que ça allait provoquer des bombes atomiques. Mais en tout cas, ce qu'il faut, nous, experts, ça serait presque criminel qu'on n'accompagne pas cette révolution. Enfin, c'est notre rôle de l'accompagner, c'est notre rôle d'accompagner nos COMEX et nos boards pour en dire les limites, les risques, mais surtout y aller à fond, quoi, parce que si on n'y va pas, d'autres le feront. De toute façon, elle est déjà dans notre poche. Donc,
Ça veut dire que ces grands experts qui disaient qu'il faut faire une pause absolument parce qu'on ne sait pas ce qui va, c'est complètement idiot, parce que s'il y en a un qui fait une pause, l'autre va rattraper son retard.
Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent tous avec pas une petite idée derrière la tête.
Mais... D'accord.
Regardez le tweet de Yann Lequin hier, il explique que ça, c'est des entreprises qui veulent verrouiller l'AI propriétaire pour bloquer l'open source qui aurait plus de mal à entrer dans ces régulations. C'est vrai. En fait, le problème est ailleurs. Je suis entièrement d'accord avec Sidi.
Ah ouais. Juste pour revenir sur ce ressenti d'aujourd'hui, on rentre un peu dans l'histoire. Ça se passe à Lyon où on avait les canaux qui tissaient de la soie et lorsqu'on a mis des machines, ils ont jeté leurs sabots dans la machine, d'où le mot sabotage d'ailleurs, mais pour la petite anecdote. Mais c'était une manière de dire, on ne veut pas de ces machines parce qu'on va perdre notre emploi. Aujourd'hui, ces machines sont là et eux ont monté en grade. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant aussi de regarder un peu dans le rétroviseur de temps en temps. Et de toute façon, il faudra composer avec l'IA, mais ce que vous dites là est super intéressant parce que ça veut dire qu'il faudra la mater un peu, peut-être la dresser.
Il faut y aller et mettre un cadre. Comme
ouais,
toi,
c'est ça.
En fait, si moi je pense...
C'est ça.
Il y a un point clé. Si on a réussi et qu'on réussit aujourd'hui à gérer l'être humain qui est plus complexe que de l'IA, parce qu'il y a des émotions, il peut, en fonction du contexte, changer. Si l'être humain qui est dans le processus, qui fait ce processus-là, on arrive à gérer ça, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas avec l'IA.
Mais ça veut dire, ça se traduit comment l'IA dans SNCF Connect Intech ?
Alors nous, c'est bien qu'on parle d'open source, parce que nous, on a fait notre premier bot conversationnel, on l'a fait en open source. Parce qu'on s'est dit, la base, c'est les partages et c'est l'union de plusieurs personnes qui vont venir contribuer qui feront qu'on va avoir des choses super. Donc, on a commencé par ça et après, au fur et à mesure du temps, on a rajouté des éléments, d'autres bots sur d'autres canaux pour justement accompagner les clients. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux et les choses comme ça, les gens, ils n'ont plus l'habitude forcément d'appeler. Ils ont envie de prendre leur téléphone, écrire sur WhatsApp, écrire sur Messenger et tout de suite avoir la réponse. Donc, on a développé plusieurs bots et après, on a commencé à faire des choses pour les relations clients, pour justement alléger la charge des agents et pour qu'ils soient plus proches de l'humain et que tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est administratif, les tâches chronophages ou répétitives, que ce soit l'intelligence artificielle qu'ils gèrent. Mais c'est plus du LLM que de l'IA générative. Côté IA générative...
C'est là où vous testez.
On explore. Parce qu'on essaie de voir quel est le cadre qu'on doit mettre en place parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes avec l'IA explorative. Enfin, l'IA générative, pardon, c'est que c'est nouveau, il faut voir comment on peut gérer, contrôler, comme le dit Vincent, faire en sorte que ça réponde aux besoins et que ça, on va dire que ça ne parte pas dans le côté obscur, si je peux dire, de ce qui est fait. Et en fait, c'est...
Mon point entre la crainte de l'IA et la crainte de la bureaucratie, vous ne trompez pas d'ennemi. Enfin, je pourrais le dire aussi pour Framatome.
Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est du coup, il faut qu'on garde une certaine maîtrise. Et pour garder une maîtrise, il faut expérimenter. C'est comme ça depuis des décennies, des siècles, on expérimente. Et nous, ce qu'on a fait, comme vous l'avez vu, tout le monde parle de ChatGPT. C'est devenu le...
Parce qu'il est facile d'accès, on l'a dans la poche. Enfin bon, on l'utilise presque par jeu, finalement.
Exactement. Et du coup, nous, on s'est dit, pourquoi pas ? On l'a couplé à notre fameux bot, qui, on sait qu'il est bien, il répond aux besoins et le processus est bien calé. On s'est dit, on va le coupler à notre bot pour essayer de voir si ça peut ajouter un complément pour les clients. Alors, comment vous dire ? Ça a été assez surprenant. Premièrement, il nous a inventé un trajet en intercité Paris-Nantes qui n'existe pas sur le plan de transport. Donc j'aimerais bien voir le client qui attend d'aller sur un intercité et il n'y en a pas. En fait, cette ligne n'existe pas. Ouais. Là, on s'est dit, il peut halluciner un petit peu. Après, on s'est dit, bon, on ne va peut-être pas faire sur ça, on va explorer sur la traduction. Parce qu'il y en a plein qui ont fait des explorations sur ça. On s'est dit, on va essayer, ça peut marcher. Ça a marché sur certaines choses jusqu'au moment où on lui demande de traduire des villes françaises en Allemagne. Il s'est dit, oh, je vais lui changer, je vais lui mettre des villes allemandes. C'est mieux, comme ça, il changera de trajet, c'est mieux. Donc, ça peut aider, mais on n'y est pas encore. On explore.
Patrice, dans la tribune que vous publiez, je vous l'avais tous, de toute façon, je voudrais qu'on rebondisse un petit peu là-dessus, justement, sur ces expérimentations, sur les possibilités qu'offre l'IA. Et vous écrivez un moment dans cette tribune, à ce jour, en prenant un sujet particulier, c'est vous qui le dites, nos équipes data, IA, IT et autres directions sont capables quasiment de tout faire, à condition peut-être de vérifier certaines choses, mais de tout faire. Mais là, on parle d'un sujet, ou peut-être de plusieurs sujets en même temps. Mais on voit la capacité que peut vous offrir cet outil, ça voudrait dire qu'il faudrait réaliser des centaines de tâches. Et là, vous dites que c'est compliqué, voire impossible. C'est le passage à l'échelle, finalement. Et c'est ça la préoccupation principale aujourd'hui ?
En tout cas, la mienne.
Oui, mais je pense que vous discutez avec vos confrères aussi.
Je pense que je ne suis pas le seul, effectivement. Et alors, je veux juste un peu ouvrir le spectre. Quand je dis passer à l'échelle, j'élargis à tout type de produit data, pas que IA. IA au sens où il y a un algorithme derrière, pas que IA générative bien évidemment, mais tous les usages data qu'on a déjà à gérer en stock, parce que nous dans une banque, on en a, ça fait à peu près 30 ans, 40 ans qu'on a des usages data, les premières segmentations, les scoring, enfin il y en a partout, je ne parle même pas des dashboards, ça rejoint un peu le propos de Vincent où une trop forte bureaucratie, technocratie génère beaucoup de dashboards, nous on en a 140 en stock, 140 types de dashboards. Et à chaque fois que je vais en supprimer un, il y a toujours une direction qui lève la main ou un régulateur qui dit non, pas touche. Donc on a un fond. Et puis ça évolue, évidemment. En fait, ce qu'il faut comprendre, je pense que tout le monde l'a en tête, mais c'est que le patrimoine des données, c'est une matière vivante. Elle vit tout le temps. Même quand vous avez envie de rien faire sur un dashboard, il va évoluer parce que le système d'information a évolué. Donc, si je prends un petit exemple, choisissons par exemple les Big Boss. Les Big Boss, ce n'est pas une entreprise data, digitale un peu quand même, quand on voit tout ce qu'ils nous font faire. Donc ils ont un patrimoine de données à gérer. Je ne pense pas trop me tromper si je dis que les données cœur de leur business, c'est quand même les carnets d'adresses, les contacts dans les entreprises.
Je pense que c'est pas faux. J'en sais rien, mais je pense que c'est pas faux.
J'imagine que si les Big Boss s'en occupent pas pendant un an ou deux ans, la base de données va être achetée à la poubelle, vu le nombre de rotations, de mouvements, de nouveaux entrants, de sortants, de changements de poste. Donc cette matière, il faut la faire vivre. Donc quand on a déjà un patrimoine d'usage qui est très important et qu'on doit et on se lance sur des nouveaux usages, des nouveaux modèles, des réglementations, de l'IA générative aujourd'hui, le passage à l'échelle, sachant qu'on a, je considère avoir une équipe d'une grosse taille, parce que j'ai plein d'autres collègues qui ont des équipes plus petites, on est 200, data métier j'entends, sachant qu'on a notre pendant IT qui sont à peu près le double. Donc on a des moyens colossaux quand même. Bon, même si quand on dit banque, on parle aussi assurance, on parle de plein de choses. On ne pourra pas continuer à croître. Je pense que c'est fini. Bon, après, si vous suivez les actualités, vous aurez compris qu'on ne va pas, continuer à croître les effectifs. Donc on doit faire plus vite avec la même chose, voire moins. Et quand je vous disais qu'on est capable de tout faire,
c'est vrai, on est capable
de tout faire, mais unitairement. Et donc quand on dit qu'on a une stratégie qui porte à peu près 50-100 nouveaux cas d'usage, il faut qu'on trouve des solutions pour passer à l'échelle industrielle.
Ouais.
Sans qu'à chaque fois, ça nécessite un expert de data design, un expert de ceci, un expert de cela, l'IT. Et il faut qu'on trouve d'autres manières de faire.
Est-ce que tu es en train de dire qu'avant d'envisager de passer à l'échelle, il faut que sur ce que tu as, tu aies mis les bons process et les bonnes adaptations pour pouvoir le déployer sur un bon nombre de use cases avec de la rationalisation et on va dire faire en sorte que ça marche pour tout?
J'allais poser la même question mais avec d'autres mots.
Ça serait dans un monde raisonnable où on maîtrise le temps. Or non, on ne maîtrise pas le temps du tout. Et sur la Gen AI, on voit bien, on ne maîtrise pas le temps. Ça vient à une vitesse folle. Donc non, on ne peut pas faire ça. Donc malheureusement, il faut qu'on trouve autre chose. Donc évidemment, on fait ça. Évidemment, on part sur tous les use cases les plus récents, les plus nouveaux, les plus apporteurs de valeur. En même temps, en parallèle, là, moi, ce que je vois un petit peu, c'est pour ça que j'ai appelé l'article la quadrature du cercle actuel.
J'allais rebondir là-dessus. J'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui. On a mis de la techno pour... On ne peut pas augmenter les effectifs, sinon ça n'a pas de sens. Et à l'opposé, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de ce que vous imaginiez pouvoir faire.
C'est ça. C'est exactement la problématique à laquelle on fait face aujourd'hui. C'est que de toute façon, on n'a pas le choix. Même si on ne voulait pas, on est obligé d'investir sur la Gen AI, sur l'IA, massivement. On est obligé d'entretenir le parterre d'usage qui existe massivement. Et on n'a pas jamais... Mais c'est les problématiques aussi IT en général. C'est que quand on a fait face à des évolutions technologiques dans des entreprises historiques comme la Société Générale, on a à peu près toutes les couches technologiques parce que c'est difficile de se débarrasser, de décommissionner les technologies d'avant. Donc on a plein de technologies en couches. Donc c'est, dans la data, c'est un peu la même chose. On n'a jamais pris le temps de se dire, bon, maintenant, on n'a peut-être plus besoin de ça, on va faire ça autrement, on va refondre des usages existants. Pourquoi ? Parce qu'on doit investir. Et donc, il faut qu'on trouve un juste milieu en investissant sur les usages novateurs qu'il ne faut pas rater. Mais il ne faut pas oublier de construire les fondamentaux. C'est un peu le message que je voulais passer. Et construire les fondamentaux, ça veut dire convaincre nos boards de consacrer un peu d'énergie à des choses. J'exagère un peu, puis il y a plein de situations différentes, mais entretenir des fondamentaux sur la qualité des données, les bases de données, c'est de l'Excel pour certains. C'est-à-dire, il y a une base de données, il suffit de changer tel code, il suffit de changer telle colonne, telle ligne. Pourquoi vous nous embêtez avec la gouvernance des données, la qualité des données, mais faites de l'IA générative? Et c'est là notre rôle, je pense, c'est notre responsabilité, c'est de convaincre qu'il faut travailler sur ces socles fondamentaux et sur une circulation fluide des données, sachant qu'on parle de pétaotech données et qui bouge tout le temps. Quoi.
Ouais. Et de toute façon, je sais que c'est un mot qui fait toujours bondir Naïma, mais je l'utilise. Ces données, c'est quand même le carburant de l'IA pour avoir une IA de qualité.
Ça ne me fait pas bondir. Je suis d'accord. Mais oui, la data, c'est le carburant de l'IA, c'est le carburant de l'humain aussi. Parce qu'en fait, sans data, on ne fait pas notre métier, pour la plupart.
Sans forme de dashboard ou autre.
Donc en fait, c'est le carburant de tout simplement.
Ouais. On va quand même explorer quelles solutions on pourrait mettre en avant. Je vais donner la parole à Vincent dans ce focus, et après je vous donnerai la parole à vous aussi. Peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit, Vincent ?
Ouais, alors deux réactions, qui vont être très courtes. La première, c'est un proverbe. C'est à marée basse qu'on voit ceux qui nageaient sans maillot. Donc, c'est quand on essaie de faire de l'IA très compliqué qu'on voit apparaître les problèmes des basiques. Voilà.
Ah non, elle est bien, celle-là, vous la retenez.
Elle est pas mal, celle-là.
Ça, c'est Michel, première. La deuxième, c'est la loi de Conway. Alors, la loi de Conway, c'est une loi extrêmement puissante qui a été faite par un informaticien qui vous dit qu'en gros, les systèmes d'information vont toujours reproduire et amplifier les problèmes de communication des organisations qui donnent naissance à ces systèmes. C'est pour ça que la plupart des projets informatiques de l'État vont dans le mur. Et c'est aussi pour ça que souvent, et bon, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes dans la salle, quand vous êtes responsable de l'IT, en fait, vous endossez des problèmes de process et de communication, d'organisation, que les gens n'ont pas voulu assumer, que dans un monde d'informel et de papier, d'email, on peut vivre avec, même si ce n'est pas efficace. Et quand ça arrive, c'est vous sur le système, ça explose entre vos mains, alors que la responsabilité est ailleurs. Et donc l'une des difficultés du responsable data, ça va être de faire le ménage dans cette partie de process, alors que souvent, il n'a pas de mandat pour ça.
Ouais.
Et c'est la raison pour laquelle, nous, dans nos équipes de transformation digitale, quand je suis arrivé, on avait des informaticiens qui essayaient de trouver des opportunités d'outils. J'ai enlevé les informaticiens, j'ai mis des personnes spécialistes de process, qui pouvaient avoir la compréhension des responsables métiers ou des informaticiens qui avaient envie de devenir Master Black Belt en ligne, parce que c'est le bon, la bonne efficacité. Alors, je parle de l'industrie, mais c'est d'optimiser conjointement les flux de matière et les flux de données. Si on fait que les flux de matière et puis derrière on dit bah maintenant que j'ai fait mon process, trouve-moi un outil, ça ne va pas être standard, ça va être coûteux et vous allez perdre des tas d'opportunités d'optimisation que vous auriez pu faire. Mais ça, c'est difficile. Vous regardez dans les prévisions 2022 de Gartner, il vous disait le CIO va devenir CEO. C'est-à-dire qu'au début, il était responsable d'un outil informatique. Demain, il sera responsable de l'efficacité d'un process. Ça, c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, est-ce que les équipes IT ont un mandat pour ça ? Non, très souvent, elles sont victimes de ce que j'appelle la malédiction du fabricant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des designs, puis à la fin, on vous dit « fais ce truc », et quelquefois, le truc est infaisable. C'est des choses qu'on connaît bien dans le nucléaire. Et est-ce que au niveau des COMEX, au niveau des responsables métiers, ils ont compris ça ? Dans la plupart du cas, non. Donc c'est vraiment une tâche qui est grande, hein, puisque en gros, la révolution, c'est vous qui allez l'amener, elle va au-delà de l'informatique, mais elle est difficile parce que vous êtes un peu un révolutionnaire incompris. Hein. C'est un peu comme Marx de son vivant, où il a trimé toute sa vie, il a pris des coups, et ses bouquins n'ont jamais été vendus, il n'a pas eu la notoriété qu'il a eue après qu'il soit décédé.
Ça sous-entend quoi ? Qu'il va y avoir de nouveaux métiers ou une évolution rapide des métiers actuels par rapport au contexte dans lequel on vit ?
Alors ça veut dire, d'urgence, tous les gens qui sont dans le métier informatique, intéressez-vous au process, allez faire des formations en ligne, montez en crédibilité sur ces questions de process. Parce que si vous n'avez pas ce permis de travail, vous allez toujours être dans le coin du ring et ils vont vous taper dessus. Deuxième point, les métiers aussi de leur côté vont devoir évoluer. Quand vous regardez un système informatique aujourd'hui, en fait, de plus en plus, les métiers veulent avoir leur projet. Vous regardez même le poste de travail, de plus en plus, en partie l'utilisateur est son propre administrateur, ce qui est compliqué, hein, parce que bon, on met des helpdesks qu'on optimise, qu'on met en Roumanie pour réduire les coûts, et vous continuez à avoir des gens qui ont vraiment des difficultés à fonctionner avec ce système. Donc il faut que les métiers aussi évoluent de leur côté. Et là encore, le rôle de grand transformateur, de formateur, de reprendre les basiques, des compétences dans les métiers non techniques, c'est assez rare qu'on reconnaisse à l'IT le mandat pour faire ça. Mais en même temps, si vous ne le faites pas, vous avez face à vous des gens qui vont vous noyer sous les injonctions contradictoires et qui ne vont pas être capables de gérer les systèmes que vous leur avez mis en place. Et à la fin, ça sera toujours la faute de l'informatique.
Ouais. Donc ce qui voudrait dire que peut-être un nouveau poste pourrait être créé, je pense que ça existe déjà, mais de super analystes experts des nouvelles technos, dont la mission serait bon déjà de les comprendre, mais surtout de les immiscer au sein des équipes pour qu'elles-mêmes soient sensibles à ces évolutions.
Alors nous, on essaie vraiment, le nerf de la guerre, c'est acculturer les collaborateurs. On a nos business analysts, justement, ils sont en train d'évoluer, on est en train de les former pour que la tech, ce ne soit pas de la tech, mais que ce soit de la continuité dans leur process d'analyse. Ils veulent des données, ils vont aller les chercher, ils se forment au SQL. Donc un métier, un business analyst qui n'est pas de tech, c'est compliqué pour lui, donc on les forme à faire du SQL pour aller chercher les data dont ils ont besoin pour concevoir leurs analyses, leurs études, et pas se dire comme avant, je fais une demande à l'IT pour qu'il me donne un set de données pour que je puisse explorer, je commence à faire mon analyse, il me manque des choses, je vais repartir demander à l'IT et ainsi de suite. Donc on essaie de faire en sorte que le métier évolue pour avoir un peu de tech, pour être autonome par exemple. C'est un des exemples de ce qu'on essaie de faire pour rejoindre ce que disait Vincent.
Il y a un indicateur de changement, c'est le turnover de certaines fonctions. Donc il est assez fort sur les CDO, le turnover. Ça cache quoi ? Ça cache que, en général, on met sur ces personnes des exigences ou des attentes en fait, qui sont soit pas raisonnables, soit qui demandent un ensemble de compétences tellement rares qu'on ne les trouve pas sur le marché. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, il y a un bouquin très intéressant de Brian Arthur qui s'appelle « The Nature of Technology » qui vous explique qu'en fait comment la technologie change le monde. Et en fait, elle change vraiment le monde quand elle est sous la forme d'une brique que n'importe qui peut utiliser. On l'a vu sur l'AI. L'AI, ça existe depuis, enfin, dans les années 90, on faisait des modèles, alors c'est moins puissant. Quand la rupture de ChatGPT, c'est quoi ? C'est une brique que n'importe qui peut utiliser. D'accord. Et donc, à partir du moment où n'importe qui peut l'utiliser, il faut accepter que dans l'entreprise, on ait une vision de la technologie différente et un rôle du responsable IT qui soit plus orchestrateur. Et là encore, hein, est-ce que les personnes ont le bon mandat, la bonne formation? Tout ça, c'est difficile. Et dans les premiers temps, la difficulté, elle va peser sur celui qui est responsable du projet.
Ouais. Vincent, on revient juste sur Framatome. Comment est-ce que vous intégrez ces nouvelles technologies? Quand on voit le niveau d'exigence qui est le vôtre, la production et la génération de data, comment est-ce que cela a fait évoluer, je dirais, allez, je vais le mettre au sens large du terme, le digital chez Framatome?
Alors, d'abord, il faut savoir qu'on est une industrie qui a connu des cycles assez importants, hein, puisque vous regardez le plan Messmer, donc il est lancé en 1973, jusqu'au dernier réacteur dans les années 2000. Là, c'était la croissance, une visibilité dont tout le monde rêve, hein, puisque vous savez que vous avez des projets, il ne peut rien se passer, il y a ça un peu dans l'aéronautique. Après, il y a eu un retournement. Ensuite, Fukushima, là, c'est plus qu'un retournement, c'est un énorme coup sur la tête.
Ouais,
Areva était en faillite. Et donc on a remonté la pente et là actuellement le ciel s'éclaircit à nouveau et donc la technologie a suivi ça, le digital twin, la simulation numérique, ça a été fait dans le nucléaire avant que ça se fasse dans l'automobile ou dans l'aéronautique. En fait, la simulation numérique, elle s'est faite dans le nucléaire avant le numérique, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était même avec des ordinateurs analogiques, c'était pas avec des 0 et des 1, c'était des systèmes en fait qui reproduisaient dans des microprocesseurs, il n'y a pas de microprocesseurs, hein, dans des composants passifs, hein, des transistors, des résistances, des mécanismes.
C'était là, on avait des grosses bobines là aussi.
C'est même avant. Oui, c'est même avant.
Ah, oui. Voilà.
C'est une boîte de forte technologie. Hein, 100% du COMEX, c'est des ingénieurs. Après, la difficulté, c'est que il y a eu un stress financier extrêmement fort. Il y a une focalisation extrêmement importante sur les projets. Et dans ce cadre-là, il y a une première question d'allocation de moyens, ça je pense que tout le monde la connaît. Il y a une deuxième question d'investissement des manques de l'équipe dirigeante dans la technologie, c'est-à-dire que s'ils ne la comprennent pas totalement, les projets les plus simples peuvent passer la barre, mais sur d'autres cas, ça va être plus compliqué. Et un troisième enjeu, qui est un enjeu d'entreprise étendue. Historiquement, on a des entreprises qui fonctionnaient de façon isolée. Aujourd'hui, on met en place des systèmes pour que la chaîne travaille de façon plus homogène. Et ça, c'est un vrai gage de qualité, de réduction des problèmes et d'efficacité dans les projets. Mais ça amène des problèmes cyber extrêmement complexes. Tout le monde n'a pas le même niveau d'exigence. Et en même temps, ça amène des gains phénoménaux. Les cuves des centrales nucléaires, hein, donc 500 tonnes, 13 mètres de haut et une tolérance au dixième de millimètre sur chacune des parties de cette cuve. Quand on livre une cuve, on livre en même temps une documentation technique qui aujourd'hui fait l'équivalent de 13 fois La recherche du temps perdu, qui est le plus grand roman de la langue française. Et je te garantis que ce n'est pas du Proust.
J'imagine.
Et donc le digital va permettre d'enlever ça. Et on voit bien que c'est un système qui est un peu paradoxal, parce que vous imaginez bien que quand vous avez une masse de papier comme ça, la vérification par les autorités est plus compliquée que si vous avez des données structurées, où là, ils peuvent faire eux-mêmes de leur propre data science. Donc, ce système-là est en train d'évoluer, avec les difficultés, alors, qui se traduisent de formes différentes, mais qu'on retrouve partout, c'est-à-dire le syndrome de la marée basse, des problèmes d'investissement, des problèmes de renforcer les basiques et avoir des briques fortes avant de faire les projets. Et je terminerai peut-être par un exemple, donc sur le projet de Data Lake. Il y a deux façons de faire un projet comme le Data Lake. Si vous avez de l'argent, vous achetez un Data Lake, puis vous allez chercher un use case. Si vous n'avez pas d'argent, c'est notre cas, on fait le tour de tous les métiers. Dans chacun des métiers, on trouve des use cases, un ROI suffisant. On fait signer le métier en disant, voilà le ROI, je paierai ma part. Et une fois qu'il y a ça, on fait le projet. L'inconvénient de la deuxième méthode, c'est qu'elle est plus longue. L'avantage, c'est qu'elle résiste à toutes les coupes budgétaires et elle vous fait des choses, vous faites moins d'erreurs, par contre, vous allez moins vite.
Préparez vos questions, parce que je vais vous donner la parole dans un instant. Moi, j'avais deux points que je voulais qu'on évoque, parce que c'est quand même important. Peut-être à double entrée, c'est la cybersécurité. L'IA, c'est autant d'opportunités, je dirais, nouvelles à partir du moment où on va travailler cette donnée. Le deuxième point, et c'est peut-être plus vrai pour l'industrie, la période Covid a fait que de nombreux petits fournisseurs, c'est pas péjoratif quand je dis ça, ont accéléré leur digitalisation, mais pas forcément leur système de protection, même si je sais que vous êtes excessivement exigeants, vous tous, hein, qui faites appel à vos fournisseurs. Est-ce qu'il y a un risque accru? Est-ce qu'il y a de nouveaux comportements à avoir pour se protéger? Qui veut répondre, Vincent? Je voudrais ce sera la même question pour tous les trois.
Alors d'abord, la cybersécurité, c'est un problème de qualité. La qualité, ça concerne toutes les industries. Par exemple, chaque année, aux États-Unis, vous avez 7% des voitures qui font l'objet de rappels. Donc on estime le coût macroéconomique de la non-qualité logicielle, c'est à peu près 10 points de PIB. Donc en France, c'est 300 milliards. Ouais. Voilà. Alors, premier point. Deuxième point, ça nous touche de plus en plus. Pourquoi ? Parce que le logiciel mange le monde. Tout devient logiciel, donc on est dépendant du logiciel, donc les bugs, on les voit mieux. Avant le Covid, une panne de réseau de 5 minutes, ça passait inaperçu, les gens recevaient un mail plus tard. Après le Covid, vous avez la moitié de la boîte qui vous engueule parce qu'ils étaient en Teams, le truc a été bloqué. Hein ? Donc on est très dépendant de la technologie. Il n'y a pas forcément plus de bugs, simplement on est plus dépendant des bugs. Troisième point, dans les méthodes de développement, le développement des méthodes agiles ou des équipes de développement qui ont une taille sous-critique, mais ça emmène des risques parce qu'en termes de méthodes de qualité, les gars qui s'amusent à faire des petites applications légères, le niveau de qualité ne va pas être la même que celui qu'on s'impose dans le nucléaire. On a des méthodes de qualité fortes. Et le dernier point, c'est que sur les questions de cloud, je voulais y revenir. Vous protège, des grands acteurs de cloud vous protège infiniment mieux de tous les attaquants que ce que vous pourrez faire vous-même. Sauf un cas. Une attaque souveraine, en gros de l'espionnage, et qui va plutôt se produire dans les énormes deals aéronautiques, nucléaires ou militaires. Et c'est pour ça que moi, une partie de mes données ne peut pas être dans le cloud et n'y sera pas. En revanche, pour n'importe quelle entreprise et pour d'autres parties de mes données, c'est un conseil que je fais et c'est plus simple. Après, il y a aussi des questions de coûts. C'est-à-dire que si vous utilisez peu les API de cloud et que vous avez une charge qui ne bouge pas beaucoup, en termes de coûts, vous gagnez de l'argent à le garder chez vous. Par contre, vous avez besoin d'avoir une compétence technique plus forte. Donc si vous avez, en gros, des cycles qui bougent beaucoup, des appels de charge qui bougent beaucoup, et une faible compétence technique, elle est sur le cloud, si vous avez une forte compétence technique et que ça ne bouge pas, vous allez gagner de l'argent à ne pas y être, voire à remettre une partie de vos données sur des bandes magnétiques. Mm-hmm. Le coût au pétaoctet des données sur bandes magnétiques, vous divisez par 100 le coût par rapport à ce qu'il y a sur des disques. La seule contrainte, c'est qu'il faut attendre une demi-journée pour avoir les données, mais pour des plantes centrales qu'on doit garder pour 100 ans et dont on n'a pas besoin tous les jours, ça peut marcher. Donc moi, je pense que là-dessus, il va y avoir d'ailleurs une transformation. Aujourd'hui, tout le monde va dans le cloud sans te poser de questions, les prix vont monter. Au bout d'un moment, les gens vont faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire segmenter les données chaudes et les données froides. Les données froides, on peut diviser les coûts par 100, voire par 5000, en fait, parce qu'on fait aussi moins de backup. Et ben, on les stockera à un endroit, puis le reste, on le mettra sur le cloud.
Merci pour cet éclairage. Naïma, peut-être une réaction ?
Oui, quand on dit cybersécurité, c'est vrai qu'on pense beaucoup à la qualité de ce qu'on produit, que ce soit sans faille et qu'on fasse attention. Et souvent, on oublie les gens, parce qu'une des plus grosses failles, c'est quand même l'être humain qui va cliquer sur un mail pour aller choper un virus ou un rançongiciel.
Oui, un truc basique, mais qui va avoir des conséquences.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on teste les collaborateurs au moins une à deux fois par mois. Alors l'équipe sécurité est top, ils innovent honnêtement. On va dire une fois sur quatre, on a beaucoup de gens qui tombent dans le piège, mais au moins, ça leur permet de voir s'il y a des risques. Parce qu'en fait, on peut tout sécuriser. Moi, j'aimais bien, il y a des projets que j'avais fait à l'époque quand j'étais chez BNP, on avait tout sécurisé. Et il y a un mec qui a fait un truc qui nous a mis en risque, on a eu des problèmes. C'est comme si on avait fait un bunker et que lui, il arrivait avec une petite perceuse, il a fait un petit trou pour lui en se disant, ça va. Mais il a fait une faille. Et du coup, le risque, c'est... Vous avez souvent m'entendre dire l'être humain, parce qu'en fait c'est notre plus grand risque, l'être humain, parce que c'est lui qui peut venir casser tout le processus qui a été testé, qui est bien, parce qu'il va vouloir le contourner pour pouvoir faire ce qu'il veut en fait.
Mais là peut-être que l'IA pourra vous aider.
Si l'IA était conçue par l'humain de la bonne façon.
De la bonne façon. Et...
Vincent, non, mais très rapide, il y a l'IA. Donc nous on fait des campagnes de tests. Ce que j'ai rajouté, c'est que les données nominatives des gens qui sont font piéger, on les donne aux managers. La première fois, c'est un rappel courtois. La deuxième fois, c'est une formation. La troisième fois, on les vire.
Pas mal.
Ah bah voilà. Hein.
Au moins, vous allez au bout de l'histoire. C'est dit.
Si.
Bah oui, mais oui, oui. Patrice, sur cette question de cybersécurité.
Bah, à la Société Générale, on a tous les services de sécurité possibles, imaginables. Vous imaginez bien qu'on, en tant que tiers de confiance, on fait extrêmement attention aux données de nos clients. Ça, c'est une évidence. Moi, je suis banque de détails, donc on va dire l'hybridation de nos plateformes et le cloud est un sujet particulièrement complexe à instruire, parce qu'on parle quand même de données de transactions, par exemple. Est-ce que ça vous ferait plaisir de savoir s'il y a des clients, Société Générale, que vous libellez de paiement carte, ils sont chez OpenAI, par exemple? Non, donc évidemment, je vous rassure, ils n'y sont pas, ou s'ils y sont, ce sera peut-être plus probablement de votre faute que de la nôtre. Donc on est très prudent là-dessus, mais peut-être du coup on est excessivement prudent. Et du coup, l'un de mes rôles aussi, à moi et d'autres, c'est de sensibiliser notre board avec l'IT sur le fait que ce n'est pas une raison pour ne pas y aller quoi, sur le cloud. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on y est, mais indirectement avec des solutions éditeurs SaaS ou des choses comme ça sur des données désensibilisées ou des données qui sont très, très loin du cœur banking. Mais du coup, je sens une petite tendance à ne pas y aller suffisamment parce qu'aujourd'hui, au même titre que dans notre poste de ma poche de droite, c'est mon téléphone perso, j'ai la GenAI. Dans ma poche de gauche, j'aimerais bien en avoir aussi. Et pas que pour faire des usages data, aussi pour l'exercice de mon travail. Quoi. Parce qu'en fait, toute la richesse qu'on va avoir à droite, je veux l'avoir à gauche aussi. Donc demain, je veux avoir la possibilité d'avoir un moteur de GenAI qui va me faciliter la rédaction des mails, ou peut-être un article. Je ne sais pas, hein, si je suis invité, ça me prendra moins de temps. Ou tout ce qu'on va être capable de faire en génération de contenu, des images, des PowerPoint. Ça, en plus, on sait très bien que la suite Microsoft l'embarque très rapidement. Donc c'est des choses aujourd'hui qu'on ferme parce qu'on n'est pas encore mûr, mais il ne faut pas fermer trop longtemps parce que moi j'ai vécu Internet, alors ça fait un peu vieux, dans l'entreprise. Hein. J'étais dans le groupe EG, mais une structure plus petite qui pendant un an et demi nous a interdit l'usage d'Internet free sur notre poste de travail. C'était de l'intranet. Mmh. Et il a fallu 2 ans pour qu'ils comprennent que de toute façon on ne pouvait pas lutter contre ça, qu'à un moment ils ouvrent aux collaborateurs l'accès aux extranets et aux sites, bah avec évidemment certaines précautions, bah, la GenAI, c'est pareil. On ne peut pas résister. Il ne faut pas faire ça n'importe comment, surtout dans la banque, de confiance.
C'est clair, c'est clair. Mais voilà. Avec toujours ce ressenti qu'est la risque de destruction d'emploi. Je suis désolé, mais je fais porte-parole des médias qui, lorsqu'ils parlent de ChatGPT, ils ne parlent que de destruction de postes et non pas de nouveaux métiers, voire d'évolution des métiers. Mais bon.
Entre l'âge des cavernes et aujourd'hui, 99,9999% de ce qui fait qu'on est en meilleure santé, mieux habillé, on a moins froid, c'est de l'innovation. Donc après, on peut dire que l'innovation, c'est mal, mais c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Après, la question de l'emploi, vous voyez, entre parenthèses, alors ça remonte un peu, hein, mais il y a 3 mois, le taux de chômage en France était à un niveau record bas, c'est-à-dire c'est le plus bas depuis 1984. Donc les problèmes de chômage qu'on a dans ce pays, ils sont majoritairement pas liés à l'intelligence artificielle. Après, les transformations, ça s'accompagne. Hein. Vous regardez, le modèle nordique, c'est un modèle dans lequel on accompagne fortement les transformations et on accompagne moins le fait de rester dans une position stable. Donc là, il y a un vrai sujet, mais c'est plutôt des sujets... soit vous abandonnez la possibilité de richesse. La possibilité d'augmenter la richesse, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le cancer de la prostate, il se soigne 2 fois mieux que c'était le cas il y a 15 ans. Pareil pour le cancer du sein. Donc ça, soit vous dites, ça on le laisse de côté, soit vous dites, on va le chercher, on accompagne les personnes et on accompagne l'ensemble des besoins humains. Et regardez la dépendance, regardez les services publics, regardez tous les services dont on a besoin au quotidien. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas défaut de sujet sur lequel on peut employer les gens. Donc l'idée de se dire on va employer les gens sur des choses qui peuvent être mécanisées et se priver de ce qu'on pourrait gagner à côté, ce n'est pas bon. Après, ça doit être fait de façon humaine, il faut se donner le temps, il faut le faire correctement, mais c'est plutôt ça le débat que d'interdire l'IA.
Alors justement, se donner... Oui, Patrice.
Non, je voulais juste compléter, je suis complètement d'accord, mais moi qui ai vécu le premier téléphone portable à Noël où j'avais 18 ans, ça, alors un peu vieux ce que je dis, mais... avait un téléphone à clapet à l'époque, dont je tairai la marque parce qu'elle a disparu.
Tout qui se
voilà,
tout
exactement. Ça, ouais. Là aujourd'hui, moi qui, je ne sais plus à qui j'en parlais hier au dîner, j'aime bien tout ce qui est cartographie. J'adore les cartes, mais les jolies cartes. J'adore les cartes et j'adore aussi un peu l'impressionnisme. Donc j'ai demandé à des outils de GenAI qui marchent très bien aujourd'hui, s'ils pouvaient me générer une carte d'Europe. Qui ressemblait à une version impressionniste. Alors j'ai essayé du Dali, j'ai essayé du Monet, etc. Il m'a produit un certain nombre de choses. J'ai prompté en changeant les couleurs. Je suis arrivé à des choses qui sont juste incroyables. Alors il n'y a pas encore la définition pixel qui me permettrait de l'imprimer et de faire un joli cadre, mais c'est juste incroyable. C'est incroyable. Donc en fait, moi j'ai l'impression que je vis ça exactement comme le téléphone portable ou comme l'internet, sauf que ça va beaucoup plus vite. Et que de toute façon, c'est déjà dans les poches de tout le monde, avant même que ça soit dans l'entreprise. Ouais, et donc, c'est une révolution presque collective qui va avoir des impacts, mais individuelle aussi. Ouais. C'est que chacun d'entre nous, on va changer notre manière de faire les choses.
Bien sûr.
Ça, c'est le paradoxe de l'intelligence artificielle, parce que si on y réfléchit, L'intelligence artificielle passe son temps à faire des dessins, de la poésie et de la musique, et on garde les sales boulots. C'est pas ça qu'on attendait. Nous, on voulait passer notre temps à faire de la poésie, de la musique et du dessin, et que pendant que l'intelligence artificielle fait le sale boulot. Oui, on a raté quelque chose.
C'est le début. C'est le début.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il nous reste 10 minutes. On va les prendre avec plaisir. Moi, j'en ai deux autres parce que j'aimerais qu'on aborde ces questions de solutions, finalement, face à ce qui se passe. Vous levez la main si vous voulez poser des questions à nos invités. Vous êtes les bienvenus, hein, bien entendu. Naïma, vous voulez
réagir? Juste leur dire, soyez pas timide.
Ben voilà, voilà. Même Naïma maintenant m'aide dans ce... Je voudrais qu'on parle des solutions par rapport à tout ce qui se passe. Là, on a bien vu qu'il y a de l'exploration, qu'il y a des tests, qu'il y a des trames, qu'il y a un encadrement qui est en train de se mettre en place. Patrice, tu écris... Tu nous dis dans la tribune, notre enjeu actuel est double, poursuivre le déploiement d'usages, bon, à forte valeur ajoutée, ok, tout en consacrant suffisamment d'énergie pour bâtir une stratégie globale permettant le passage à l'échelle à moyen et long terme et se donner les moyens de la mettre en œuvre. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça va vite, mais en même temps, si on pouvait ralentir et prendre un peu de recul, ça serait pas mal. C'est ça, en fait, l'idée, et voir comment on peut optimiser l'utilisation de ces outils-là.
C'était vachement long comme phrase, en fait.
Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas
quand
de
tu
temps.
Tu la relis, hein. Je me dis, c'est vachement long.
Non, j'ai fait un copier-coller,
hein.
C'était long. Hein.
Oui, c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va tellement vite. On a tellement d'attentes de nos dirigeants, en fait, hein, qu'on peut avoir le risque, encore plus qu'avant, d'oublier que le moindre usage de data, il s'appuie sur des données. Donc, de toute façon, les données, on les collecte de manière très accélérée. Le Gen AI, il s'appuie aussi sur des données non structurées. Donc on a déjà du mal, entre guillemets, à maîtriser notre patrimoine de données structurées. On a passé suffisamment d'énergie pour faire des modèles de données, les collecter, etc. On va passer aussi maintenant à l'usage de données non structurées. Donc oui, c'est une exigence forte, parce que sinon, à chaque fois qu'on va vouloir faire un usage, on va prendre 10 experts ici, 2 millions là, et on va mettre 6 mois, quoi. Non, c'est juste pas... Je voudrais juste revenir sur un point particulier qui, moi, me tient à cœur. Je prends souvent l'image, quand je parle de la data, de l'anglais, en fait. L'anglais globalisé. Donc, on va dire post, alors c'est très schématique, hein, je ne suis pas historien, mais post chute du mur du Berlin, l'anglais n'était pas encore systématiquement la langue mondiale. Elle est devenue de manière énorme. Moi, je suis dans un groupe international, donc ça me paraît totalement évident, ça choque plus personne, même en France, qu'on ait une incitation à parler anglais en fonction de ses besoins. Par contre, j'insiste, hein. Moi, je n'ai pas besoin d'être bilingue dans mon métier. Hein. Par contre, j'ai besoin de savoir lire des mails, participer des fois à une réunion, alors pas avec trop d'écossais, mais voilà, j'essaie de me débrouiller. Mais en fait, il y a 20 ans, ce n'était pas le même niveau d'exigence pour quelqu'un qui aurait eu à peu près le même type de poste. Ben, pour moi, la data, c'est pareil. C'est comme l'anglais globalisé. Aujourd'hui, tout le monde doit savoir parler data en fonction de ses besoins. Et un dirigeant, aujourd'hui, il doit être bilingue. Et mon dirigeant, groupe Société Générale, mon nouveau, il est bilingue en anglais. Est-ce qu'il est bilingue en data? Quand je dis data, c'est au sens large, hein, parce que moi je suis focus data, mais on va dire tech, pour faire très simple. Et quand je vois les grandes entreprises mondiales qui, depuis 10 ans, ont amassé des richesses monumentales, la plupart de leurs dirigeants sont déjà souvent des fondateurs, mais pas que, mais c'est surtout, c'est des techs. Donc ils ont même pas besoin on n'a même pas besoin de leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour avoir des données fluides et faire du Uber Eats où on voit le livreur à la seconde près sur sa petite moto, quoi.
Je crois que Vincent et Naïma voulaient réagir.
Alors c'est juste pour détendre l'atmosphère. En fait, quand on cherche à décrire les cycles économiques, vous pouvez avoir des théories extrêmement compliquées, des choses difficiles à comprendre. Et puis il y a une vision beaucoup plus simple qui est donnée par Warren Buffett, c'est la suivante, les cycles économiques c'est 3 I. Vous avez d'abord le temps des ingénieurs, où là, vous avez des personnes qui font des technologies nouvelles, donc c'est plutôt le temps de la R&D. Ensuite vous avez le temps des imitateurs, où les gens prennent les briques technologiques faites par les premiers et les scalent. Donc ça c'est plutôt des développeurs, ils n'ont pas besoin d'avoir une connaissance technologique forte, mais une connaissance limitée. Et puis ensuite vous avez un 3e I, c'est le temps dans lequel des financiers... explique au marché que les arbres plantés par les premiers, développés par les seconds, vont aller jusqu'au ciel. Et ensuite, ça se casse la figure. Donc c'est le temps des imbéciles, où on raconte n'importe quoi au marché. Et dans les premières cas de figure, les patrons sont plutôt des ingénieurs. Deuxième cas de figure, plutôt des développeurs. Troisième cas de figure, les storytellers. Et si vous regardez les différents cycles, y compris la bulle Internet, vous regardez les profils des patrons, ça vous dit dans quelle phase du cycle on se situe. Voilà. Bon, là, je pense qu'on a encore besoin d'ingénieurs et de développeurs. On n'est pas encore sur le 3e I, sur l'intelligence artificielle.
Naïma ?
Moi, juste ce que je voulais ajouter, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que oui, il faut aller vers l'IA, mais à chaque fois, il faut regarder quel est notre niveau de maturité. On en est où, côté data ? OK, je vais faire de l'IA. Et qu'est-ce qu'il faut pour que je fasse de l'IA et que ce soit efficace et pas que ça me coûte plus de temps d'essayer d'en faire ? Parce que, et quand je dis niveau de maturité, ce n'est pas global. C'est par périmètre. Le marketing, c'est un périmètre. Le business, les données clients, il y a des réglementations et tout. C'est j'en suis où ? Je me pose, je regarde et je vois qu'est-ce que je peux. Toujours commencer par l'exploration. N'essayez pas de foncer tout de suite. C'est une erreur.
Sur ce point-là et sur les éléments, je dirais, de réflexion, voire des priorités, c'est vous qui l'avez écrit, Vincent. Ça date de 2006, c'est un de vos livres qui s'appelle « L'homme et le marché ». Et vous sortez quatre priorités, si j'ose dire, aux quatre points, que sont comprendre, voilà, le rôle de la prospective, voir un peu ce qui se passe, etc., réunir, créer et répartir, créer de la valeur. Et je trouve que c'est un socle intéressant de départ de réflexion par rapport à toutes les questions que l'on peut se poser aujourd'hui. Et ça date de 2006, cette affaire-là. On n'était pas en... Il n'y a pas de l'IA. Enfin, j'espère que je ne me suis pas trompé quand je piquais. C'est bien votre livre.
Oui, ouais, tout à fait. Non, ça, alors, bon, ça nous mène très, très, très loin des sujets digitaux informatiques. Cela dit, ce qu'on décrit là, en fait, c'était plutôt un essai politique. Mais ce qu'on écrit là, on le retrouve aussi sur un projet. C'est-à-dire que... et moi, ce qui m'a frappé dans le début de ma carrière, où j'ai travaillé dans le secteur public, c'est qu'en fait, vous avez des profils de politique très différents. Vous en avez certains qui sont vraiment des dieux dans la capacité de réunir. Vous les mettez dans un syndic de copropriété, ils vous sortent, les gens sont d'accord et ils votent. C'est pas facile. À l'inverse, vous en avez d'autres qui sont vraiment très très bons pour exécuter des grands projets. Enfin, on parlait de Mesmer, de projets nucléaires. Et la difficulté, c'est que des profils qui sont à la fois bons pour être capables de réunir, bons pour créer une vision claire, bons pour exécuter, tout ça à la fois, c'est assez difficile. Et donc ça, c'est le challenge qu'on retrouve dans les projets. Je pense que c'est des challenges d'autant plus forts que les technologies sont émergentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu entre deux mondes sur l'IA générative. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des briques simples, leurs limites, leurs coûts, leurs problèmes en termes de data sont mal compris. Et donc, là, on a vraiment besoin d'une vigie qui comprend bien la technologie pour vous guider. Et plus on évoluera vers des choses qui sont plus standards, plus ça changera. En 2000, vous aviez dans toutes les entreprises, y compris les banques, un VP Internet qui était au COMEX. Bon, 5 ans après, ils se sont tous fait dégager. Et aujourd'hui, le patron du commerce ou du retail de la Société Générale, s'il n'a pas compris l'Internet, il ou elle, il n'est pas à sa place. Pourquoi ? Parce que la technologie est devenue mature, il n'y a plus besoin d'être un expert pour la maîtriser. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'experts, mais l'expert, il est déjà sur le sujet d'après. Ouais. Donc nous, notre rôle, c'est aussi d'être un peu sur le sujet d'après et puis de préparer la transmission de briques matures aux métiers qui, eux, effectivement, ils doivent monter en technologie, mais ils ne seront jamais des super experts, ils ne le souhaitent pas. Et voilà, en matière de technologie, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui aura écrit 100 000 lignes de code dans sa vie et quelqu'un qui aura juste lu des que sais-je ou regardé des vidéos sur Internet.
Ça, c'est au moins, c'est radical. Ça veut dire que votre présence ici, à tous les trois, c'est aussi venir prendre le pouls par rapport aux prestataires qui sont là, prendre le pouls un peu de l'évolution de la technologie, de voir peut-être la brique supplémentaire qui pourrait répondre à une de vos attentes. C'est un petit peu cette démarche-là, Patrice ?
Complètement, et puis aussi de discuter aussi avec nos confrères. Hein. Et puis, dans d'autres secteurs, moi je m'enrichis beaucoup aussi de la manière dont ces sujets sont traités dans d'autres domaines que la banque, hein, parce qu'en fait, la gestion d'un patrimoine de données, il est commun à toutes nos entreprises. En fait, hein. Après, on a des particularités qui font qu'on va aller plus là que là. Mais moi, j'adore discuter, par exemple, avec mes CDO correspondants sur l'industrie, parce que du coup, il y a d'autres cultures, ils ont d'autres problématiques, mais on s'enrichit mutuellement. Et ben, c'est aussi la richesse d'un certain nombre d'éditeurs de logiciels ou de prestataires qui ont, du coup, dans leur scope, clientèle, tout un tas de domaines, et ils s'enrichissent aussi de cette vision-là. Donc, ouais. Moi, c'est super intéressant.
D'un mot, parce qu'on va commencer le tour de table de conclusion, on est à l'aube d'une nouvelle... J'ai l'impression d'avoir utilisé ce terme pour d'autres affaires technologiques, d'une nouvelle révolution technologique là.
Ah bah moi sur l'IA générative,
ah oui. Se passe quelque chose, ouais. Là.
En tout cas moi personnellement dans ma vie quotidienne, oui. Ouais. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas dans ma vie professionnelle à venir. Oui, moi c'est certain. Par contre, les défis qui sont devant nous sont gigantesques. C'est aussi ça qui fait l'intérêt.
On a bien compris le cadre, la feuille de route, la stratégie, la vision, la compréhension. Enfin, c'est quand même des bases, hein, tout simplement. Naïma, on est à l'aube d'une révolution, selon vous ?
Non, on est sur l'étape d'après d'un progrès. On progresse, la société progresse, et la société a toujours progressé. Alors, tu me diras si c'est vrai. Progresser plus vite. Dans le monde personnel, parce qu'on on sort les sujets plus vite, on explore et on laisse les gens, il y a plus de gens qui s'intéressent, qui font qu'on arrive à évoluer plus vite que dans le monde professionnel où on a ce devoir de protéger les données et protéger les process, les réadapter, etc. En fait, c'est juste qu'on progresse, mais là, avec l'IA, on voit qu'on progresse moins vite que ce qui peut se passer, comme il le dit Patrice, sur la poche de droite, sur tout ce qui est personnel. En fait. Et c'est, l'enjeu, ça va être de, que le gap, parce qu'il y a un moment, on va avoir un gap important, il ne faut pas être trop en retard, en fait. Oui, c'est ça. Comment on fait pour passer à l'étape d'après pour ne pas être en retard.
Vincent, même question pour terminer. Peut-être pas en proverbe, j'en sais rien, mais en tout cas, on les a bien notés. Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution ?
Non, j'ai évidemment ça qu'à proverbe. Non. Alors, je pense oui, et surtout, je voudrais sortir avec un mot positif, c'est-à-dire que ce qui se passe sur l'IA, c'est essentiellement une transformation heureuse. Ça va nous permettre d'être plus riches, de trouver, résoudre des problèmes à un certain nombre de défis. Bon, regardez à côté, vous voyez les guerres qui explosent un peu partout dans le monde, le vieillissement, le changement climatique qui va nous coûter probablement entre le tiers et la moitié de nos gains de pouvoir d'achat dans les 60 années qui viennent. Donc, moi, je pense qu'au lieu de se lamenter sur l'IA, le sujet, c'est d'en tirer tous les bénéfices et puis de gérer l'ensemble des défis auxquels on est confronté. Il y a des défis négatifs, des défis récessifs et des défis qui nous donnent plus de moyens. L'IA est clairement dans la deuxième catégorie. Donc, soyons heureux, profitons de ces journées ensemble et allons boire un verre à la santé de l'IA et de tout ce qu'on pourra en tirer.
Pour faire de la poésie, c'est ça ?
C'est peut-être un peu tôt pour boire un verre, mais en tout cas, merci beaucoup.
Sans alcool.
Sans alcool. Merci beaucoup. On a pris un peu de hauteur sur l'IA, mais vos éclairages étaient super intéressants. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde.
Merci à tous.